à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission locale. Une émission co-construite avec les jeunes qui abordent les questions d'insertion, alors d'insertion professionnelle, d'insertion économique, d'insertion sociale. En fait, toutes les questions finalement qui préoccupent les jeunes et qui n'osent peut-être pas se poser. En tout cas, nous essaierons d'y répondre durant cette émission. Autour de la table à la question, justement, nous retrouvons Baptiste, Rémi et Jean-Manuel. Bonjour à vous. Voilà. Ouais, on va vous ouvrir les micros. Bonjour. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes l'équipe de jeunes qui avait préparé cette émission. Nous sommes vus la semaine dernière et nous avons décidé de travailler sur les questions d'emploi et de handicap. En quelques mots, comment s'est passée la préparation là, pour les auditeurs qui nous écoutent? Comment s'est passée pour vous cette préparation?
Pour moi, ça s'est bien passé.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait durant cette préparation?
Nous avons préparé quelques questions pour Cap Emploi et GEC Propreté.
Ouais.
Du coup, on a préparé ça dans un groupe de 4 personnes, Baptiste, moi, Rémi et...
Et Kelly, qui nous a filé un coup de main, tout à fait.
Qui nous a filé un coup de main, mais qui est malheureusement pas là. Donc, on avait préparé ces questions-là, on a reformulé, on s'est donné les questions pour cette interview d'aujourd'hui.
Vous êtes organisé, quoi?
On s'est bien organisé et aujourd'hui, on se lance dans l'interview.
Voilà. Se creuser la cervelle, se poser plein de questions qu'on ne se posait pas avant, ça s'est passé comment pour vous, Baptiste, Rémi? Vous l'avez senti comment? Comment ça s'est fait de se dire au devant, on va se poser des questions qu'on ne s'était jamais posées avant pour les partager avec des auditeurs? Ça s'est passé comment pour vous?
Ça a été plutôt simple en soi. On a très rapidement trouvé plein de questions. Après, on a fait énormément de brainstorming. Toutes les questions qui étaient plutôt bêtes, mais simples, on les a posées.
Ouais. Et ça, finalement, on se rend compte que des questions bêtes et simples, finalement, elles ne sont pas si bêtes et simples quand on les reformule.
C'est ça.
Voilà. Ça s'est bien passé pour toi aussi, Rémi? J'aime bien entendre tout le monde en début d'émission, en fait. Dès le début, j'aime bien entendre la voix de chacun.
Je ne sais pas lequel prendre.
Ça, non, c'est le succès.
Ça s'est plutôt bien passé. C'était plutôt tranquille au début, mais ensuite, on a vraiment bien réfléchi. C'était parfait.
Très bien. Alors, au sommaire de cette émission, nous retrouverons effectivement un échange autour de ces questions d'emploi et de handicap avec, vous l'avez dit, GEC Propreté et Cap Emploi. On y revient dans un tout petit instant. Nous aurons, parce que nous ne pouvons résister à ce petit plaisir, nous aurons un échange ensemble autour de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené jusque-là aujourd'hui à tenir un micro et poser des questions à nos invités? Et nous terminerons avec Didier de la mission locale pour parler du plan jeune. Peut-être certains ont entendu parler de ce plan jeune dont les premiers éléments sont sortis à la fin du semestre dernier ou début d'été et qui a été complété très dernièrement. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et puis dans un instant, je vous laisse les micros et c'est vous qui vous débrouillez.
J'ai l'intention de tenir l'antenne 24 heures sur 24 jusqu'à ma mort. Et puis même encore après, s'il le faut.
Mais tu crois pas que ça pourrait peut-être finir par être légèrement monotone comme expérience pour l'auditeur?
Principe actif, 102.4 FM.
Alors aujourd'hui, on a la directrice de Cap Emploi de l'Eure, Sophie Tondelier.
Bonjour. Bonjour à tous.
Nous avons aussi le directeur de GEC Propreté, Eric Tansé.
Oui, bonjour à vous.
Et Coralie Germain, chargée de recrutement chez GEC Propreté.
Bonjour.
Alors, pouvez-vous nous présenter vos structures brièvement?
Alors, je vais vous parler de Cap Emploi 27. Donc, notre association, on s'implique dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, à la fois pour les aider à retrouver un emploi ou pour les aider à ne pas en perdre, puisqu'on travaille autant avec des demandeurs d'emploi de tous âges qu'auprès de salariés qui risqueraient d'être licenciés pour inaptitude. Donc notre spécialité, c'est l'accompagnement des parcours pour les personnes qui sont en fragilité du fait de leur situation de santé sur l'emploi. On intervient sur l'ensemble du département et on a une trentaine de collaborateurs qui interviennent sur l'ensemble du territoire aujourd'hui.
De notre côté, sur le GEC Propreté Normandie, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui a 20 ans, qui est spécialisé dans les métiers de la propreté. Nous sommes présents sur l'ensemble de la Normandie et aussi l'Eure-et-Loire. Et donc sur l'Eure, nous avons une agence à Évreux. Notre objectif est de former en contrat d'alternance, contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage des jeunes, des adultes, qui sont intéressés par les métiers de la propreté et qui veulent y faire carrière.
Et vous, Cap Emploi, vous avez une structure sur Évreux ?
Tout à fait. Alors, en fait, notre siège d'association, on est installé sur Évreux depuis 30 ans, hein, puisque notre structure existe depuis 30 années maintenant. Donc, et on intervient également sur différents territoires. L'objectif de notre structure, c'est de pouvoir être en proximité auprès des personnes en situation de handicap qui cherchent un emploi. Donc, on a un site sur Évreux, on a un site sur Val-de-Reuil et on intervient aussi sur des permanences sur plusieurs villes du département, de Bernay à Gisors, en passant par Verneuil-sur-Avre. Et on a souvent des partenariats avec les agences de Pôle emploi pour pouvoir accueillir en proximité les personnes sur les différentes zones. Voilà.
D'accord.
On se le disait tout au début, avant l'échange, vous connaissez, enfin vos structures se connaissent, peut-être pas vous individuellement, mais GEC Propreté et Cap Emploi, ce sont des structures qui travaillent ensemble. Vous connaissez professionnellement, j'entends ?
Oui, on travaille effectivement ensemble, nous avec Cap Emploi Évreux, on travaille puisque le but étant de les travailleurs handicapés pouvoir eux aussi trouver un emploi, donc on travaille avec des fois la mission, le Cap Emploi pour pouvoir, comme toute la mission locale d'ailleurs, voilà.
Tout à fait, on est en fait, l'un des objectifs de notre activité, c'est de pouvoir accompagner les personnes à l'emploi, donc l'accès à l'alternance et à la professionnalisation, comme peut le proposer le GEC, c'est un vrai sujet pour nous. Parce que l'objectif, c'est de qualifier les demandeurs d'emploi, de leur donner la possibilité d'apprendre un métier, notamment d'accéder aussi à des emplois en tension. On pourrait croire que des personnes en situation de handicap ne peuvent pas accéder à des emplois d'agents d'entretien parce qu'on se dit que c'est physique, etc., etc. Donc là, il y a tous les stéréotypes du genre qui peuvent entrer en ligne de compte. Or, ce n'est pas du tout vrai, puisqu'on sait aussi que le handicap, c'est pas une généralité, c'est différentes typologies, différents besoins. Selon les individus, on place régulièrement des gens dans des parcours qui leur permettent de se qualifier, d'obtenir des certificats de qualification professionnelle dans l'entretien.
Vous venez de dire permettre d'accéder à des emplois en tension. Nous qui ne sommes pas du milieu, qu'est-ce qu'un emploi en tension ? Enfin, ça veut dire quoi un emploi en tension ?
Les métiers en tension, c'est la qualification de Pôle emploi, hein, notamment le marché de l'emploi. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues et en fait des employeurs qui cherchent désespérément des candidats, comme on dit. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir justement faire se rejoindre l'offre et la demande et faire en sorte que des personnes qui ont besoin de se qualifier aillent peut-être plus facilement sur des métiers sur lesquels il y a besoin de candidats pour que en fait chacun soit content et que tout le monde, les employeurs trouvent des candidats et que les candidats qui cherchent un travail puissent en trouver facilement.
Donc quelles sont les actions que proposent vos structures Cap Emploi et GEC Propreté ?
Déjà, ce qu'on va proposer, c'est des actions communes, parce que pour rebondir sur ce que disait Madame par rapport à Cap Emploi et par rapport au handicap et la propreté, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que souvent, le GEC Propreté, enfin les secteurs de la propreté, connaît très très mal le handicap, les formes de handicap. Nous et nos entreprises ne parlons que de handicap physique la plupart du temps, alors que le handicap physique qu'on voit représenté par un fauteuil roulant, c'est qu'une partie de ce que sont aujourd'hui les personnes qui ont un handicap. Donc nous, secteur du nettoyage, nous ouvrons à découvrir de nouveaux handicaps et à se rendre compte que dans nos métiers, on peut tout à fait accueillir des publics ayant cette reconnaissance handicap, parce que nous avons autre chose à proposer que des métiers physiques. Et de l'autre côté, c'est vrai que Cap Emploi va pouvoir nous proposer, eux aussi, des candidats par rapport à nos métiers, parce que nos métiers ne sont pas non plus que des métiers physiques. Et c'est à ça qu'on va pouvoir jouer ensemble, c'est de mieux apprendre à nous connaître. Et une émission comme celle d'aujourd'hui, eh bien, c'est l'idéal parce que ça permet de communiquer et de se rendre compte que tout est possible à condition de mettre en face de l'offre une demande cohérente. Voilà, ça va être ça l'idée. Et donc, ce qu'on va pouvoir apporter, c'est des solutions d'emploi ensemble. Des solutions d'emploi où le handicap n'en est plus un, parce que l'emploi que l'on propose ne présente pas de difficultés particulières d'accès à l'emploi pour la personne qui a un handicap. Vous voyez l'idée ?
Pour Cap Emploi, si je peux compléter, donc nos actions, en fait, nous, on, sur l'accompagnement à l'insertion des demandeurs d'emploi, on accompagne à peu près 1600 personnes à l'année. À l'heure actuelle, on a à peu près, sur ces 1600 personnes, 350 jeunes de moins de 30 ans qui sont accompagnés par nos services. Et notre objectif, c'est vraiment d'essayer à la fois de les aider à construire un projet professionnel qui tienne la route, qui soit cohérent avec leurs envies, les opportunités qu'il y a sur le territoire. Et puis, c'est effectivement, comme disait monsieur, de faciliter la rencontre aussi avec les entreprises. Donc, on va proposer des actions dynamiques avec des rencontres employeurs, des salons, des job dating, où on va faire en sorte que les personnes qu'on accompagne rencontrent aussi les employeurs. On est dans la vraie vie. L'idée, c'est pas de juste se dire tiens, on va chercher un travail, mais c'est abstrait. Il faut rencontrer des gens. Il faut comme on fait là aujourd'hui. On est dans l'échange, on est dans la rencontre, et c'est ça qui est important pour les personnes, notamment les personnes en situation de handicap, parce que ça permet aussi de dépasser l'idée qu'on a de ce que c'est qu'une personne en situation de handicap. On rencontre et on se dit « Ah bah tiens, j'aurais pas dit que la personne était en situation de handicap quand je la vois comme ça. » C'est ça qui est intéressant.
Est-ce qu'on pourrait rappeler d'ailleurs, quand on dit personne en situation de handicap, est-ce qu'on parle de handicap, j'ai envie de dire permanent, de handicap temporaire, parce qu'il peut y avoir aussi des questions de handicap temporaire liées à un parcours de santé, de vie, des handicaps, vous parliez de handicap visible, invisible, de mobilité, d'autres. Comment est-ce qu'on définit au bout d'un moment le handicap d'une personne ?
Le handicap, c'est une définition assez complexe. En fait, le handicap, c'est la rencontre d'une personne qui a une difficulté, une incapacité avec l'environnement. Donc, par définition, en fonction de l'environnement dans lequel on va se situer, des fois, on ne va pas être en situation de handicap, puis des fois, on va y être beaucoup. Donc, c'est ça ce qui est important. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a plusieurs typologies de handicap et qu'en fonction de la nature de son handicap, on ne va pas avoir les mêmes besoins. Les mêmes besoins, des fois, on n'aura pas de besoin du tout parce qu'on gère bien sa situation de handicap. Elle a zéro impact sur son travail. Puis des fois, on va avoir besoin d'aide pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Et c'est là où ça va être important.
J'avais une petite question suivant la question qui est précédente. Une personne atteinte à une situation de handicap, comment elle peut postuler dans vos entreprises ?
Comme toute personne en fait qui postule chez nous, que ce soit une personne handicapée ou pas, elle postule de la même façon, sauf qu'effectivement le but est de savoir qu'elle a un handicap pour que nous la mettions pas en difficulté quand on va la mettre sur un site, par exemple. Parce que le but, c'est de pouvoir l'accompagner, de qu'elle soit bien mise en place. Si on ne sait pas qu'elle a ce handicap, ça va être très compliqué. D'où l'intérêt que la personne nous le dise. Mais sinon, la façon de postuler, c'est pour tout le monde pareil. Ils nous envoient un CV. Et puis, suivant le poste, on regarde si le profil correspond au poste.
Après, le principe du recrutement, c'est le principe de la non-discrimination à l'embauche. Tout le monde a les mêmes droits. Et ce qui est important, c'est les compétences des gens. Et après, effectivement, une fois qu'on a identifié que les personnes, elles sont compétentes ou motivées à apprendre, parce que des fois, la compétence ne fait pas tout, la motivation, c'est important aussi. Eh bien, l'objectif d'une entreprise, c'est de dire comment elle peut l'accompagner pour que la personne, elle s'intègre bien. Et avec selon la personnalité qu'elle a et selon son profil, et aussi en tenant compte de sa situation de handicap.
On peut envoyer nos CV où et comment on peut vous contacter ?
Alors nous, c'est le GEC Propreté Normandie. Donc soit sur nos boîtes mail directement, puisqu'on a une boîte mail personnelle chaque permanent. Et sinon, il y a le site, vous allez sur le site GEC Propreté Normandie, il y a un site et vous pouvez aussi de là postuler. Et on a une plateforme qui s'appelle Je Trouve, où là aussi, vous pouvez aller vous y inscrire et de là, les CV sont rebasculés suivant d'où vous habitez, vont être redirigés vers la bonne agence.
Alors, en parlant d'handicap, quels sont les différents paliers d'handicap ?
Différents paliers, c'est ça ?
Oui, différents paliers handicap, où y a-t-il plusieurs formes ?
Alors, il y a plusieurs typologies de handicap. Il y a les handicaps moteurs, le handicap qui est lié à une maladie invalidante, les handicaps sensoriels, auditifs, visuels. Hein, on ne voit pas forcément très bien, on n'entend pas forcément très bien. On peut avoir des difficultés, en tout cas qui perturbent ces différents sens. Il y a aussi des difficultés qui peuvent être liées au handicap intellectuel, avec des gens qui ont plus de difficultés. Il peut y avoir des difficultés qui sont liées au handicap psychique, avec des personnes qui ont besoin aussi de prendre plus de confiance en leur environnement, qui ont besoin d'adaptation, voilà, d'un certain nombre de choses, notamment peut-être parfois sur la durée du temps de travail, parce qu'ils sont plus fatigables, parce qu'ils ont besoin de prendre du temps pour leurs soins. Hein, donc, on ne va pas vraiment parler de paliers et de degrés, mais on va plutôt parler de typologie. Et ce qui nous importe justement à Cap Emploi, et quand on est en partenariat avec les employeurs, c'est jamais on parle de la maladie ou du problème de la personne, parce que ça, c'est de l'ordre du secret médical et ça n'a pas à voir du tout avec le sujet. Mais par contre, ce qu'il y a à voir, c'est est-ce qu'on a besoin ou pas d'adapter le poste de travail ? Est-ce que la personne, par exemple, parce qu'elle est fatigable, ben on va se dire que c'est mieux qu'elle travaille peut-être que 15 heures ou 16 heures par semaine, parce qu'elle ne peut pas plus, parce qu'on sait que derrière, si elle fait plus, eh ben, ça ne va pas tenir, elle va être dans l'échec, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est important. On ne parle jamais de la maladie, hein, ni du pourquoi, du comment, ça ne regarde pas, ça c'est personnel. Ah, mais par contre, ce dont on va parler, c'est est-ce qu'on a besoin ou pas de avec l'entreprise, d'adapter le poste, voilà.
Pour illustrer sur une entreprise, on va donc se poser la question des conditions de travail, celles que nous, employeurs, nous allons proposer. Et par rapport aux conditions de travail, est-ce que le handicap de la personne va lui poser des difficultés pour réussir dans cet emploi ? Prenez l'exemple de la sourdité. Si je mets quelqu'un sur une activité de nettoyage de bureau, le fait qu'elle soit sourde peut me poser un problème si elle travaille seule, parce qu'elle ne va pas entendre une alarme, par exemple. Donc là, on va avoir un handicap qui peut, sa sourdité peut poser un souci si elle travaille seule. Maintenant, sa sourdité sur du nettoyage, si elle est en équipe et qu'elle est encadrée, il n'y a plus de handicap. Il n'y en a plus. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de gommer le handicap parce qu'on va dire que les conditions de travail ne posent pas de difficultés par rapport à... Ce n'est pas le handicap qui pose une difficulté aux conditions de travail. Ce sont les conditions de travail qui posent une difficulté. Moi, je prends un exemple toujours très simple, celui d'une pièce dans le noir. Mettez quelqu'un de voyant dans une pièce dans le noir avec quelqu'un qui est aveugle. Qui est handicapé ? Celui qui est voyant. Parce que celui qui est aveugle va bien mieux se déplacer parce qu'il a développé d'autres capacités pour se déplacer. Donc c'est bien la situation dans laquelle vous mettez la personne, une pièce dans le noir, qui va faire que quelqu'un de voyant va être perdu, alors que quelqu'un qui est aveugle dans une pièce dans le noir aura beaucoup moins de difficultés à se déplacer. Donc vous voyez bien, c'est pas le handicap qui pose un problème, c'est les situations dans lesquelles vous allez mettre la personne avec son handicap. Donc parlons des conditions de travail et pas des handicaps. C'est ça l'idée.
Juste avant une petite pause musicale, je voulais souligner cette idée auquel j'ai été sensible. Ce sont les conditions de travail qui ne sont pas adaptées à la personne et ce n'est pas la personne qui n'est pas adaptée au travail. C'est une vision assez contemporaine. Enfin, j'ai envie de dire, c'est une vision quand même de l'emploi qui est assez récente.
La loi. Hein, depuis le février 2005. C'est la définition du handicap. C'est la confrontation de la déficience à un environnement. Et effectivement, c'est aussi pour ça qu'on parle aujourd'hui d'accessibilité et de nécessité de compenser parfois les situations, les environnements. Parce que la responsabilité n'incombe pas seulement à la personne, mais bien effectivement à tout à l'ensemble de la société. Hein, quand on parle aussi d'inclusion aujourd'hui, hein, ça fait partie des choses dont on parle. Eh bien, c'est ça. C'est quelle est la responsabilité de chacun pour faire varier les paramètres qui vont faire que, effectivement, la personne va pouvoir s'épanouir, va pouvoir mobiliser ses compétences dans des bonnes dans des conditions de travail adaptées à sa situation.
Je dirais, vous prenez un exemple très simple. Si le trottoir qui permet d'accéder à un bus est à la même hauteur que le bus, le fauteuil roulant y accède sans aucune difficulté. Il n'y a pas de handicap. Si par contre le trottoir est trop bas, il faut des jambes pour aider la pauvre personne avec son fauteuil roulant à essayer d'eux. Là, il y a un handicap. Donc c'est bien la circonstance, c'est bien l'environnement qui crée le handicap. Si on est tous... Alors la loi, elle est de 2005. Le problème, c'est que entre la loi et les pratiques, malheureusement, il faut peut-être 15 ans. Alors moi, je trouve que ça change beaucoup. Ça change dans le bon sens, heureusement. On a même aujourd'hui ce que j'appelle, moi, de la discrimination positive. C'est-à-dire que nous, par exemple, au GEC, on va aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on va même essayer de... On va favoriser l'emploi des travailleurs handicapés au détriment de ceux qui ne le sont pas. Et moi, j'ai l'impression de faire de la compensation, de ce que j'appelle l'équité. L'équité, c'est... Je pense que quelqu'un qui... quelqu'un né avec un handicap ou un jour se trouve avec un handicap... Généralement, mais il ne l'a pas choisi. Donc, nous, essayer de ramener une équité en compensant ça et en lui permettant, comme tout le monde, de pouvoir travailler et accéder à des conditions de travail normales, ça nous semble être la moindre des choses. Et c'est ça qu'on essaye de faire. C'est cette image que beaucoup de gens ont. Vous savez, cette image où au lieu de donner un tabouret de la même hauteur à des gens, qu'on a un petit, un moyen et un grand, vous donnez un grand tabouret au petit, un moyen tabouret au moyen, et vous n'en donnez pas au grand. Et donc tout le monde est au même niveau des yeux et voit de la même façon. Et ça s'appelle pas l'égalité, ils n'ont pas le même tabouret, ça s'appelle l'équité. C'est ramener tout le monde à un système équitable. Et c'est ce que nous devons faire par rapport au handicap.
Oui, c'est important parce que les personnes en situation de handicap, elles sont quand même beaucoup concernées par les problématiques d'emploi. Hein. Elles sont quand même nombreuses parmi les rangs des demandeurs d'emploi. Et donc, faire en sorte que les employeurs aient, comme vous le dites, monsieur, une sensibilité aussi à ce qu'est les handicaps, à la possibilité de valoriser justement les compétences et de pouvoir donner peut-être plus précisément un intérêt pour ces publics, c'est effectivement quelque chose d'important.
Je vous propose une courte pause musicale et nous revenons pour une deuxième partie d'échange avec vous. Je rappelle que nous sommes toujours avec Sophie Tondelier, directrice de Cap Emploi. Nous sommes également avec Éric Tancé, le directeur de GEC Propreté, ainsi que Coralie Germain, chargée du recrutement à GEC Propreté. Nous nous retrouvons dans un petit instant après la pause musicale. Aretha Franklin avec le morceau Respect, bien entendu, nous sommes toujours en direct, en live et pas en public pour cette fois, Covid oblige, de la mission locale d'Evreux.
Principe actif.
C'est une radio libre.
Oui, je sais.
Alors, c'est une radio libre.
Chaud, parfait.
À Évreux, 102.4. À Verneuil-sur-Avre, à Breteuil-sur-Iton, à Conches-en-Ouche, 95.9.
Voilà, comme je le disais, toujours en direct, en live de la mission locale d'Evreux, accompagné de Baptiste Rémy et Jean-Manuel La Question. La préparation, on a vu Kelly aussi qui nous avait filé le petit coup de main. Nous sommes toujours avec nos invités, Sophie Tondelier, directrice de Cap Emploi. Nous sommes avec Éric Tancé, directeur de GEC Propreté, et Coralie Germain, chargée du recrutement également à GEC Propreté. Baptiste, nous poursuivons nos échanges, je crois, hein, c'est ça qui est
oui,
au programme. Eh bien, bah, je te laisse les reprendre.
Eh bien, la prochaine question, c'est quels sont les budgets et les aides pour l'employeur, pour aménager un poste de travail ?
Alors, il existe effectivement des organismes qui sont des fonds, en fait, qui aident à l'embauche des personnes en situation de handicap, notamment l'AGFIP, dans le secteur privé, qui peut financer des aides à l'aménagement des situations de travail. Si, par exemple, il faut acheter un fauteuil adapté pour la personne, s'il faut, dans le cadre d'une activité de nettoyage, par exemple, lui acheter un balai télescopique pour éviter qu'elle se baisse, mettre en place un certain nombre de solutions, justement, pour lever les contraintes de travail trop lourdes, eh bien, Cap Emploi, on sait identifier quels sont les besoins, on partage cette analyse-là avec les entreprises, et ensuite, on va pouvoir mobiliser des aides spécifiques, mais qui sont là toujours des aides un peu au cas par cas. Donc, c'est difficile de vous dire, tiens, il y a tant pour telle situation, puisque à chaque fois, on essaye de faire du sur-mesure et des éléments un petit peu cousu-main, je dirais, hein, pour justement faire en sorte qu'on s'adapte aux situations. Après, il y a quand même quelques petites aides, et là, on en reparlera certainement avec M. Richard tout à l'heure, qui va faire un petit zoom sur le plan de relance, mais il y a quand même des aides, là aujourd'hui, des aides à l'embauche pour les personnes en situation de handicap. L'État mobilise des fonds spécifiques, hein, jusqu'à 4 000 euros sur des financements d'aide à l'embauche pour des contrats en CDD ou CDI. Hein. Donc là, ça peut être un vrai effet levier pour recruter.
Et 8 000 euros sur les aides aux contrats aux alternants. Contrat d'alternance, que ce soit contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage. Hein, donc deux formats différents, le CDD ou le CDI qui n'a pas de formation, de plus de 3 mois où il y a 4 000 euros. Et où le contrat en alternance avec formation, où là, il y a 8 000 euros de mis en œuvre, parce qu'il y a aussi le coût de la formation qui est à prendre en charge. Je voulais juste revenir sur parce qu'on on demande régulièrement de l'aide à la GFIP, justement, sur le financement des postes. Quelques exemples très concrets. Ça peut être l'aménagement d'une petite plateforme élévatrice à l'arrière d'une camionnette pour, justement, pouvoir emmener une monobrosse, une autolaveuse, qui sont du matériel de la propreté, et où la personne ayant des problématiques de dos, grâce à cette petite chariot élévateur, ne va plus à porter l'autolaveuse ou la monobrosse pour la monter dans la voiture. Un exemple très d'actualité, malheureusement, c'est les masques. On a, nous, dernièrement, commandé des masques avec la visibilité sur la bouche pour des publics que nous avons, des salariés qui sont donc atteints de surdité. Et donc, la GFIP a payé le surplus du coût de ce masque. Donc, nous, on a payé le coût d'un masque normal, sauf que comme il était adapté avec la visibilité de la bouche pour que la personne puisse lire sur les lèvres, eh bien, la GFIP a pris en charge. Donc, vous voyez, on est bien sûr de la prise en charge réelle et sérieuse de situations où on doit permettre à quelqu'un de pouvoir continuer d'exercer son métier malgré des contraintes extérieures comme celle du masque qui pourraient la mettre en difficulté dans sa façon de communiquer avec les autres. C'est du concret, du réel et du sérieux pour permettre à ces personnes en situation de handicap de continuer de travailler normalement, comme les autres. C'est ça qui est important.
Donc, je vais reprendre, je vais un peu continuer avec la question de Baptiste. De quelles aides les personnes en situation de handicap peuvent-elles bénéficier ?
Alors, les personnes en situation de handicap, elles peuvent bénéficier de toutes les aides de droit commun. Déjà, tu es en situation de handicap, tu as le droit, comme tout le monde, à toutes les aides possibles selon ta situation, selon les besoins de ta situation. Si tu as un besoin d'aide pour te déplacer, etc., etc., voilà. On peut mobiliser tout type d'aide. Ensuite, de la même manière qu'elle le fait pour les entreprises, l'association AGFIP, lorsqu'elle va financer des aides pour les personnes en situation de handicap, elle va le faire à partir du moment où il y aura un diagnostic du besoin qui aura été posé. Donc, par exemple, chez ACAP Emploi, nous, lorsqu'on identifie qu'une personne, elle a besoin d'avoir, par exemple, du matériel informatique, parce qu'aujourd'hui, sa situation de handicap nécessite qu'elle fasse de la formation à distance, par exemple, parce qu'elle ne peut pas se déplacer, elle ne peut pas aller toujours sur les centres de formation, on peut demander une aide au financement des équipements informatiques, parce que la situation de handicap ne permet pas à la personne qu'elle aille tout le temps en formation et elle a besoin de faire de la formation chez elle, un peu en formation, un peu à distance, si vous voulez. Mais on ne va pas forcément le mettre en place pour toutes les personnes en situation de handicap si la situation de handicap ne nécessite pas de le faire. Voyez, hein, donc, à chaque fois, comme pour les aides aux entreprises, je dirais la nécessité, c'est de réfléchir aux besoins de la personne et à l'importance de la situation de handicap sur le besoin. Et est-ce qu'on peut ou pas venir compenser ce besoin-là ? Et dans ces cas-là, effectivement, nous, c'est tout, je dirais, notre intervention aussi, hein, les conseillers de Cap Emploi, on est là aussi pour justement faire cette évaluation-là. C'est-à-dire, par rapport à sa situation, de quoi la personne a besoin ? Est-ce qu'elle a besoin d'avoir une aide pour un permis adapté, par exemple ? Elle a besoin de passer le permis de conduire. Il y a besoin peut-être de plus d'heures par rapport aux apprentissages, parce que la personne, elle est dyslexique. Elle a besoin de plus de temps pour apprendre. Donc, on sait que le coût forfait du permis, c'est pas simple. Donc, comment on peut... Et dans ces cas-là, nous, on va argumenter auprès de la GFIP pour avoir des aides complémentaires au financement et à des éventuels surcoûts qui peuvent être liés. Hein.
Et encore une fois, il ne faut pas abuser. Les entreprises sont aussi responsables des gens qu'elles recrutent. Moi, j'ai des salariés qui ont une reconnaissance travailleur handicapé pour une problématique au niveau de la conduite. On m'a demandé l'achat d'un véhicule avec une boîte automatique. Je n'ai pas demandé à la GFIP, on a acheté une boîte automatique. Parce qu'une boîte automatique lui permettait, par rapport à son handicap sur sa jambe, de moins fatiguer. C'est aussi, voilà, la GFIP, ils sont là. Pour nous aider, Cap Emploi fait un diagnostic, la GFIP peut financer, et c'est l'entreprise qui doit assumer son salarié et qui doit le faire progresser aussi.
Alors j'ai deux petites questions sur le thème d'avant. Comment, par exemple, une personne avec la situation d'aujourd'hui, par exemple, une personne se fait contacter par son patron disant qu'elle doit rester chez elle suite au Covid. Quelles aides peuvent avoir la personne s'il y a eu un effet négatif sur le salaire ?
Alors aujourd'hui, c'est pas la situation de handicap qui sera prégnante par rapport à ça, c'est clair, ça sera le chômage technique. Et si la personne ne peut pas venir travailler parce qu'il n'y a pas assez d'activité, l'employeur il mobilisera le chômage technique. Après, par contre, s'il y a nécessité de maintenir la personne en télétravail pendant plus de temps, parce que la personne en situation de handicap, des fois, elle peut être fragile, elle peut être plus vulnérable que quelqu'un d'autre, qu'une autre personne qui n'a pas de problème de santé. Donc là, par exemple, en ce moment, la GFIP a mis en place des aides et mesures exceptionnelles, notamment en aidant à l'aménagement des postes de travail en télétravail pour des gens qui peuvent... qui sont en situation de handicap, en situation de vulnérabilité et qui pourraient ne pas pouvoir revenir trop sur leur poste de travail. Mais encore faut-il que l'activité se prête à ça. Si la personne, elle est agent d'entretien polyvalent, c'est sûr que faire du télétravail, ça paraît compliqué. Hein, on est bien d'accord. Donc ça va dépendre effectivement des situations dans lesquelles on se trouve. Mais là, par exemple, sur la crise sanitaire, clairement, la GFIP a mis en place des mesures et des aides exceptionnelles pour venir aider particulièrement les entreprises hein, sur le télétravail, ou comme le disait monsieur tout à l'heure, sur l'achat de masques inclusifs, avec la possibilité d'avoir des masques où on peut lire sur les lèvres pour les personnes sourdes.
Non, c'est juste que, oui, le télétravail, après, d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai une reconnaissance travailleur handicapé, Et j'ai, pendant la première vague, été en confinement, puisque je suis une personne à risque. Et là, justement, on a fait en sorte que je sois toute seule dans un bureau, justement pour éviter que je sois en contact avec nos salariés, puisque nous, la formation se passe dans nos locaux. Donc les salariés sont là, ils viennent nous voir, puisque notre but aussi étant d'être toujours là, d'être toujours présent pour eux. Et donc là, moi, je suis dans un bureau où je suis seule pour ne pas être en contact avec mes collègues et les salariés, pour que moi, j'évite, malheureusement, de finir à l'hôpital. On ne sait jamais. Donc voilà. Et si vraiment le gouvernement devait durcir, je retournerai en télétravail pour me protéger.
Je me permets juste de compléter. Donc en effet, Coralie m'a dit « J'aimerais bien pas retourner en télétravail chez moi. J'ai besoin de travailler avec les autres. Ok, je suis personne vulnérable, mais je suis comme tout le monde. J'aime mon métier et j'ai besoin de contact tous les jours. Je veux pas rentrer chez moi. » Donc on a alloué un bureau supplémentaire, on a développé, et puis on lui a permis d'être sur un bureau distancié pour qu'elle puisse continuer. Et on prie le bon Dieu, et je pense que l'État aussi, pour que tout le monde puisse continuer de travailler et qu'on s'en sorte sans repasser par un confinement total. C'est pas le sujet, je sais, mais bon, c'est vraiment... Et là, vous avez l'exemple, voilà, avec Coralie. Alors, je t'en remercie de ce témoignage, Coralie, mais voilà, c'est un témoignage en direct pour vous de la complicité qu'il doit y avoir aujourd'hui entre l'entreprise et son salarié pour trouver la solution qui soit, alors, la moins pire ou peut-être la meilleure, soyons positifs, mais celle qui plaît à chacun et qui permet de continuer de travailler. Malheureusement, comme le disait madame, c'est pas toujours possible. Il faut être clair.
Je voulais juste resignaler dans ce que je comprends, et vous m'arrêtez quand j'ai des bêtises, mais au bout d'un moment, le travailleur en situation de handicap, le but du jeu, c'est en faire un travailleur ordinaire, finalement, en adaptant les conditions. Et finalement, quand c'est la loi ou le cadre général qui s'applique, eh ben, c'est que c'est gagné. Et c'est qu'en fait, au bout d'un moment, c'est plus une personne en situation de handicap avec avec une législation ou un règlement différent, mais bel et bien un travailleur qui est devenu un travailleur ordinaire, en fait.
Mais regardez ce que vient de dire Coralie à vos jeunes animateurs. Elle leur a dit, vous ne le savez pas, vous ne l'avez pas vu. C'est ça qui est intéressant. Mais moi, je suis une personne avec un handicap. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il faut, il faut penser que le handicap, il n'est pas que visuel. Et que d'ailleurs, on s'en fout avec Coralie de son handicap. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est sa santé aujourd'hui. Parce qu'en effet, elle est plus vulnérable. Mais le danger de la vulnérabilité, c'est de stigmatiser les travailleurs handicapés et de se dire, oh là là, moi, employeur, vu les problèmes de Covid, je vais peut-être éviter d'embaucher un travailleur handicapé. Il est vulnérable. C'est ça le risque. C'est ça le risque. C'est d'ailleurs pour ça, soyons clairs, qu'aujourd'hui, un travailleur handicapé, souvent, il cache son handicap parce qu'il a peur du jugement. Il a peur d'être épinglé parce que, oh là là, il est handicapé en ce moment avec ce Covid. En effet, je pense que c'est déjà pas facile d'avoir un handicap. Les travailleurs handicapés ont un taux de chômage 2 fois supérieur. Et en plus, le Covid va les impacter en direct parce que l'entreprise va se dire... Évitons le chômage partiel des gens vulnérables, n'embauchons pas de travailleurs handicapés. Donc moi, je pense que c'est maintenant, justement, qu'il faut accélérer. Merci encore pour ce type d'émission, parce qu'il faut le dire. C'est maintenant qu'on doit protéger l'emploi des travailleurs handicapés, parce qu'ils ne sont pas handicapés dans l'emploi. Voilà, c'est un handicap de la vie, pas un handicap dans l'emploi.
Alors je vais tenir mon rôle un petit peu relou, là, forcément, au bout d'un moment, parce que le temps avance et on aurait pu vous garder 2 heures, bien entendu. Je me retourne vers notre équipe de journalistes. On pose plus que les questions essentielles, prioritaires et exceptionnelles. Je vous propose un tour d'une question chacun et pas plus. Ça vous va ? De toute façon, on n'a pas trop le choix si on veut avancer et boucler cette émission dans les temps. Jean-Manuel, c'est toi qui t'y collais sur... Tu avais dit que tu avais 2 questions, tu n'en as posé qu'une. Tu fais le choix de la question que tu veux poser pour finir cette interview.
J'ai posé une question importante. Comment se déroule le parcours pour être reconnu travailleur handicapé ?
Alors, pour être reconnu travailleur handicapé, la demande doit être faite auprès de la maison départementale des personnes handicapées. C'est elle qui statue sur la reconnaissance de travailleur handicapé, notamment.
La MDPH.
La MDPH, voilà, tout à fait. La MDPH.
Qui est reconnue par son sigle, notamment.
Ouais. Tout à fait. Et donc, du coup, on fait la personne, c'est une demande individuelle. Hein, donc, la personne, elle fait cette demande-là. Et la MDPH va statuer sur cette reconnaissance travailleur handicapé pour aller travailler, comme on disait, puisque les gens en situation de handicap sont des travailleurs ordinaires, en milieu ordinaire de travail, hein, donc avec la possibilité d'accéder à l'emploi et au droit à l'accès au travail. Voilà, donc c'est la principale possibilité. Après, il y a d'autres façons. Des personnes peuvent bénéficier d'une pension d'invalidité, avoir eu malheureusement des accidents du travail ou des maladies professionnelles et être reconnues aussi à ce titre-là. Hein, donc voilà, mais principalement, ce sont des démarches à faire auprès de la MDPH. Et Cap Emploi, nous, on est présents sur les équipes pluridisciplinaires au sein de la MDPH pour pouvoir justement statuer en collaboration avec l'ensemble des équipes de la MDPH et de Pôle Emploi, et certaines personnes de Pôle Emploi, pour statuer sur les demandes, hein, et la pertinence aussi des situations. Voilà. Sachant que, bien sûr, la MDPH, elle a des médecins qui valident. Hein, au premier chef, bien sûr, si la situation de handicap, eh bien, la situation de santé nécessite bien d'être reconnue administrativement. Mais attention, ce n'est pas une étiquette, hein, la RQTH. Ça permet d'avoir ce qu'on disait des droits complémentaires par rapport au droit commun. Ce qu'il faut, c'est se dire que, voilà, comme disait monsieur tout à l'heure, on n'est pas, pas handicapé, hein, il ne faut pas se résumer à ça. Il faut valoriser ses projets, ses ambitions, ses motivations, ses compétences. C'est d'abord ça qui intéresse l'entreprise. Hein, et c'est ça qui nous intéresse, nous, Cap Emploi, de faire émerger aussi chez les gens.
Ça permet d'accéder justement à ce principe d'équité que vous abordiez il y a quelques instants. Avant-dernière question. Je me permets de pousser, hein, la vie est dure, je sais.
On nous pousse.
Ah bah oui.
Alors, ma question, moi, c'est qui peut attester une personne handicapée? Tout simplement.
Qui peut,
qui peut attester une personne comme quoi elle est en situation de handicap?
Comme je l'ai dit, voilà, c'est vraiment que la MDPH et cette organisation-là. Les médecins, mais des fois les médecins du travail vont qualifier une inaptitude, ou des aptitudes, ils vont travailler sur la question de la santé. Ils vont identifier qu'il y a peut-être justement des contraintes environnementales qui rendent difficile, etc. Mais ce n'est même pas eux qui vont déterminer là, cette question de situation de handicap. Administrativement, c'est d'abord la MDPH et après les caisses d'assurance maladie qui peuvent le faire.
Juste un complément, le salarié, il a le droit de ne pas le dire qu'il a une RQTH, une reconnaissance de qualité de travail handicapé. Il a le droit de ne pas le dire, mais sachez que quand on est embauché dans une entreprise, il y a une visite médicale du travail qui est obligatoire, qu'il y a un secret avec ce médecin du travail, que là, le salarié peut l'aborder et que ce sera le médecin du travail qui va s'assurer que l'emploi dans lequel la personne se dirige est compatible avec son handicap. L'idée, elle est très simple. Ne pas pénaliser ces gens et ne pas les remettre dans une situation d'échec dans le professionnel à cause de leur handicap. Donc, je veux dire, aujourd'hui, il y a assez de paliers en amont pour s'assurer et pour que le salarié puisse être rassuré sur les conditions d'accès. Voilà. Mais encore une fois, l'entreprise, enfin, le salarié n'est pas obligé de dire qu'il a une RQTH. Moi, je pense que il faut pas se taire. Il faut pas se taire. Il faut aujourd'hui l'afficher clairement. Il y a trop de gens qui ont des handicaps et qui, par peur, le masque, voilà, et se mettent en danger. Et tout d'un coup, on se retrouve dans des situations où on comprend pas ce qui se passe, mais où la personne est allée trop loin. D'ailleurs, juste un petit indicateur qui, moi, je trouve ça révélateur. Vous prenez, on aime bien faire des études dans les entreprises. Eh bien, prenons le taux d'absentéisme, le taux de maladie, le taux d'arrêt, hein, maladie d'un travailleur handicapé dans une entreprise par rapport aux gens dits non handicapés. Eh bien, le taux d'absentéisme, il est deux fois plus bas pour les personnes qui ont un handicap. Parce que les personnes qui ont un handicap, elles s'accrochent à leur emploi. Elles ne veulent pas être handicapées, elles ne veulent pas être stigmatisées. Donc elles y mettent une énergie. Et parfois, elles en mettent même de trop, je trouve. Et elles se mettent en danger dans leur vie par rapport à leur santé. Mais on doit montrer que ce sont des gens qui sont encore, pour moi, encore plus courageux que les autres. Parce que le taux d'arrêt maladie, c'est un truc qui parle. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, soi-disant, sont handicapés, donc qui peuvent être plus en difficulté que d'autres. Et pourtant, ils sont deux fois moins malades. Voilà, moi, je garde que ce chiffre-là. Ça me suffit.
Baptiste, pour conclure, la dernière question.
Alors, justement, on va rebondir sur ce que vous disiez. Quels sont, à l'heure actuelle, les postes déjà aménagés pour les personnes en situation de handicap? Ou combien y en a-t-il?
Chez nous, à part le mien, moi, et puis peut-être Damien, qui a un poste... Enfin, c'est même pas...
Faudrait peut-être, si je me permets, faudrait peut-être discerner que sur la structure, il y a 270 parcours actuellement qui sont, il y a 270 parcours qui sont en alternance dans la propreté, qui donc exercent une activité dans les métiers de la propreté. Et puis on a une équipe de 30 permanents, dont fait partie Coralie, donc qui encadrons, recrutons, accompagnons ces publics. Donc aujourd'hui, sur l'équipe des 30, j'ai 3 personnes qui ont aujourd'hui une reconnaissance de travailleurs handicapés. Et alors, pour lesquelles on pourrait dire qu'il y a un poste adapté, mais c'est pas vrai. Parce que l'adaptation du poste de Coralie, par exemple, en termes de confort, c'était surélévation de l'écran, c'était un marchepied sous les pieds. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on était en train de faire pour elle, parce que c'était nécessaire, il fallait le faire pour les autres, pour que ce soit pas nécessaire demain. Mais oui, mais tout simplement. En fait, bizarrement, les travailleurs handicapés, ils ouvrent la porte à de meilleures conditions de travail, à plus de... L'éclairage, par exemple, on va mettre un éclairage différent dans des bureaux pour des personnes qui ont des difficultés visuelles. Mais on va se rendre compte que si on veut éviter que les autres personnes aient des difficultés visuelles dans 20 ans, il faut leur mettre cet éclairage maintenant. Vous voyez, plutôt que ça coûte de l'argent demain d'investir pour que des gens en difficulté se retrouvent, n'aient plus cette difficulté, il faudrait peut-être commencer à mettre ce principe-là pour tout le monde. C'est une évidence, mais bon.
Après, si vous voulez, sur l'aménagement, il faut avoir en tête que le recrutement d'une personne en situation de handicap ne nécessite pas toujours une adaptation des postes de travail. D'accord ? Les entreprises, elles sont soumises à l'obligation de 6% dans leur effectif des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, le secteur privé, on est à peine à 4% de taux d'emploi. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des marges pour permettre le recrutement et l'intégration des personnes en situation de handicap. Mais les personnes qui sont recrutées ne bénéficient pas toujours d'aménagement de poste parce que c'est pas toujours nécessaire. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'adaptation type, comme il n'y a pas de métier réservé aux personnes en situation de handicap. Ça, c'est une légende, ça n'existe pas. Les personnes, elles peuvent faire tous les emplois qu'elles veulent à partir du moment où la question des conditions de travail, des contraintes de l'environnement sera posée relativement à leur situation de santé. Ça, c'est vraiment hyper important. Et après, effectivement, s'il y a besoin d'aménager, on le fera. Et effectivement, ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'à un moment donné, quand on parle de handicap, comme vous disiez, monsieur, on parle effectivement de l'adaptation des situations de travail qui peut faire en sorte de faire grandir aussi l'environnement de travail et l'entreprise sur ces questions de qualité de vie au travail, mieux-être au travail. Quand on interroge l'entreprise aujourd'hui sur comment elle fait pour intégrer dans son équipe une personne qui est en situation de handicap avec un parcours d'intégration spécifique parce qu'il faut sensibiliser, par exemple, le collectif de travail aux spécificités du handicap de la personne parce que ça a un impact dans le quotidien. Ça veut dire qu'on amène l'entreprise à réfléchir à son parcours d'intégration d'un nouveau collaborateur, d'un nouveau salarié. Il y a des entreprises qui, des fois, du coup, se disent « Ah bah oui, tiens, comment je fais pour intégrer les personnes dans mon entreprise, moi, au fait ?» Donc, du coup, le fait de questionner ce processus d'intégration pour une personne en situation de handicap, ça permet des fois de le questionner de manière aussi plus générale, à dire « Bah oui, tiens, peut-être faudrait que je m'interroge et que je me gratte un peu la tête sur comment je fais pour tout le monde, au final. » Parce que ça va de soi, mais des fois, ça va mieux en le disant, quand même, hein.
Ce sera le mot de la fin. Alors, on n'avait pas prévu de rester aussi longtemps, mais finalement, aussi bien Baptiste, Rémi que Jean-Manuel, elle avait énormément de questions à vous poser. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que nous étions avec Sophie Tondelier, directrice de Cap Emploi. Nous étions avec Éric Tancé, directeur de GEC Propreté, et Coralie Germain, chargée de recrutement chez GEC Propreté. Merci beaucoup à vous trois d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci à vous. À bientôt.
Floriane, je me retourne vers vous. Mais non, vous n'en allez pas. Restez bien devant la console. Je me retourne vers vous et vous demande de nous envoyer la prochaine pause musicale.
Lenita, Lenita, inévitable et vital. Pourtant c'est toujours obèse que j'arrive pas à gagner. Aujourd'hui c'est la même, mais mon esprit est en paix. Depuis que je suis avec toi, avec toi. Depuis que je suis avec toi, avec toi. Je regarde plus jamais l'heure, sauf pour savoir quand t'arrives. T'es la seule chose dont j'ai peur, la première place dans mon cœur. Mais je suis trop bien avec toi, avec toi. Mais je suis trop bien avec toi, avec toi. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. T'es un petit croco, le soleil renaît dans ma vie. Y'a pas de quiproquo, le soleil renaît dans ma vie. Et oh comme ça, regarde tout droit. Une pour elle, une pour lui, une pour moi. Et oh comme ça, regarde tout droit. Une pour elle, une pour lui, une pour moi. L'amour est un idéal, mais je suis un idéaliste. Je peux pas cacher tout le mal par le bien que je réalise. Mais je nous vois dans le temps, plus avec toi qu'en solo. J'ai compris que c'était bon le jour où tu m'as fait la bise. Depuis que je suis avec toi, avec toi, avec toi, avec toi. Et depuis que je suis avec toi, avec toi, avec toi, 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 toi. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. T'es un petit croco, le soleil renaît dans ma vie. Y'a pas de quiproquo, le soleil renaît dans ma vie. Et oh comme ça, regarde tout droit. Une pour elle, une pour lui, une pour moi. Et oh comme ça, regarde tout droit.
Elvis avec le titre Soleil. Nous sommes toujours en direct de la mission locale.
Principe actif. L'équipe, des bénévoles tout à la fois techniciens et journalistes. Tous ont en commun de faire une radio libre.
À Évreux, sur 102.4. Dans le sud de l'Eure, sur 95.9.
Principe actif. Le mix des cultures.
Et toujours dans le cadre de l'émission locale, l'émission préparée, coproduite avec les jeunes de la mission locale. Aujourd'hui, c'était Baptiste, Rémi, Jean-Manuel et Kelly à la préparation. Nous avons notre dernier petit rendez-vous. Nous recevons Didier Richard de la mission locale. Bonjour Didier.
Bonjour à tous et à
alors,
toutes.
Je suis obligé de vous prévenir, les jeunes ont pris tout l'espace et c'est bien tant mieux. Du coup, on a à peu près 3 minutes pour parler d'un sujet qui aurait mérité une heure à lui seul, mais qui est celui du plan jeune. Il y a un dispositif gouvernemental qui est paru cet été, si je ne dis pas de bêtises, qui a été complété dernièrement afin de favoriser l'accès à l'emploi aux jeunes ou à la formation, même plus largement. En quelques mots, Didier, est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, merci JC. Donc, en quelques mots, le plan jeune consiste en 3 points à favoriser...
Un tout petit peu plus loin, pour pas que le sac y touche votre masque.
À favoriser, effectivement, l'accès à la formation par alternance des jeunes, avec des aides substantielles qui ont été allouées au niveau des entreprises, notamment. Un deuxième point qui consiste à pouvoir accompagner les jeunes les plus éloignés de l'emploi au travers de contrats uniques d'insertion, avec des aides également qui ont été revalorisées, notamment dernièrement par rapport à un décret du mois d'octobre, donc tout récemment.
Ça, c'est les aides à l'emploi que toute entreprise peut avoir en fonction d'un tas de...
Toute entreprise, effectivement, en fonction de son statut.
C'était un truc qui avait quasiment disparu dernièrement, ça, les aides à l'emploi jeunes,
non ? Disons que les priorités n'étaient pas forcément axées sur le public jeune.
Voilà, donc là, c'est le retour de l'aide à l'emploi jeune. À l'emploi pour les jeunes.
Voilà, à l'emploi pour les jeunes. Avec un accent tout particulièrement mis sur les publics des quartiers prioritaires de la ville, notamment au travers d'un dispositif qu'on appelle les emplois francs.
D'accord. Quand on dit jeune, c'est jusqu'à quel âge? Parce que moi, je me sens jeune hein, encore. Hein.
Mais moi aussi.
Ben voilà. Et pourtant, a priori, c'est pas pour nous.
Donc, non. C'est quand on parle de public jeune de façon générale, on parle de jeunes de moins de 26 ans, avec des exceptions. Et je me tourne vers Sophie Tondelier, qui est sur ma droite, pour les personnes ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés.
Très bien.
30 ans.
30 ans, en l'occurrence. Juste précision.
Eh bon, ouais. On est encore bon, Didier.
Voilà, tout à fait.
Pardon.
Pourtant, expérience professionnelle. Et puis, le dernier point étant des aides, effectivement, directes à l'embauche, qui permettent aussi de soulager certaines entreprises.
C'est quoi une aide directe à l'embauche? C'est quoi?
Ça se traduit comment concrètement? Une prime qui est versée pour toute entreprise qui embauche quelqu'un pour une durée minimale de 3 mois. L'aide étant calculée sur la première année du contrat et pouvant atteindre, pour un contrat à temps plein, 4 000 euros.
Alors, toutes ces aides dont vous venez de parler, est-ce que ce sont les jeunes qui doivent les faire valoir auprès d'un employeur? Est-ce que ce sont les employeurs qui doivent faire la démarche de monter leur dossier entre deux? Est-ce qu'il y a des entremetteurs intermédiaires qui accompagnent ces dispositifs?
Je dirais qu'il y a des entremetteurs, on en a tout autour de la table aujourd'hui. Les jeunes en premier lieu, bien évidemment, qui sont véritablement les acteurs, les moteurs de la démarche. Les missions locales, les Cap Emploi, les Pôle Emploi, mais aussi tous nos partenaires, groupements d'employeurs, fédérations professionnelles, j'en passe, et bien évidemment.
Donc ça veut dire qu'un jeune peut arriver avec ces informations-là vers un employeur, leur dire, savez-vous, il existe ça? Ce qui est plutôt pas mal quand on vient postuler.
Un peu, je veux dire, réticente par rapport au manque d'expérience ou le fait de méconnaître un jeune ou une entreprise qui a aussi des difficultés de trésorerie de par le contexte actuel. C'est intéressant, effectivement, de pouvoir promouvoir ce genre de mesures. Comme on le disait tout à l'heure, certaines mesures, effectivement, s'accompagnent d'actions de formation qui vont permettre d'élever la qualification et les compétences des jeunes au poste de travail.
Comme on est très court en temps, parce que c'est une fois de plus, je montre les jeunes du doigt, plus précisément. C'est eux, ils ont mangé tout l'espace. Non, mais comme du coup, on ne va pas avoir beaucoup de temps là, pour développer. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut trouver toutes ces informations? Voilà, on est en train d'en parler. Un auditeur se dit, bon, c'est intéressant, mais là, ils ne vont pas très loin. Est-ce qu'on peut aller plus loin?
À tout seigneur, tout honneur, vous pouvez trouver effectivement ces informations-là au sein des missions locales du département, de la région, au niveau national. Et comme je le disais tout à l'heure, auprès des partenaires, soit de par un contact direct. Il y a aussi, bien évidemment, des sites au niveau national, au niveau du gouvernement, qui récapitulent bien ces actions de formation et ces offres concernant les contrats de travail.
C'est limité en nombre, ces aides. Si on se dit c'est 25 contrats sur le département, c'est 5000 contrats sur le département. Est-ce que c'est quelque chose qui va, j'ai envie de dire, couler à flot
La question est pertinente. Cette démarche est vraiment très ponctuelle. Au jour d'aujourd'hui, il est prévu de cet effort au niveau de la nation jusqu'en février 2021. Après, certaines mesures sont fongibles, c'est-à-dire que même s'il y a des enveloppes, puisque c'est de l'argent public, bien évidemment, ne l'oublions pas, ces enveloppes peuvent être utilisées aussi bien sur le secteur marchand que sur le secteur non marchand. On a des objectifs. Après, cela va être fonction aussi des besoins, avant tout des entreprises du territoire.
Très bien. Rapprochons-nous en fonction des publics de tel ou tel partenaire qui sera réaiguillé, aller un peu plus loin dans toutes ces informations. En tout cas, le plan jeune, c'est au moins jusqu'à février. Et en fait, c'est le moment de recruter, finalement. C'est le moment de recruter, finalement.
Dans tous les secteurs, effectivement, il y a quand même beaucoup de dispositifs, de moyens qui peuvent venir en appui des entreprises et donc des jeunes et des moins jeunes, bien évidemment. Ne les oublions pas, quelle que soit leur situation.
Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Didier. Je suis désolé de vous avoir gardé si peu parce qu'on avait tellement à dire, mais on a laissé la belle part du gâteau aux jeunes qui auront questionné nos invités.
Et c'était bien normal.
Mais tout à
fait. Merci à vous. Bonne fin de journée.
Eh bien, justement, nos invités durant cette émission autour de l'emploi et handicap, c'était Sophie Tondelier, directrice de Cap Emploi. C'était Éric Tancé, directeur de GEC Propreté. C'était Coralie Germain, qui est chargée de recrutement à GEC Propreté. Cette émission vous a été concoctée, préparée, réfléchie, posée, animée, elle a été entièrement pliée par une équipe de jeunes hors pair, à savoir Baptiste, Rémi et Jean-Manuel. Bravo à vous, c'était leur toute première expérience radiophonique, leur toute première expérience d'interview. Merci beaucoup à eux. On a eu en aide Kelly aussi, qui aura participé avec nous à la préparation de cette émission. Nous avons eu la joie, le bonheur d'accueillir de manière inattendue Floriane, qui aura fait la réalisation de cette émission. Bravo aussi, parce que c'était la toute première réalisation. Floriane, vous l'entendrez jeudi aux alentours de 14h30 sur l'antenne de Principe Actif, parce qu'elle va co-animer une émission autour des arts et de la culture. Là, si, elle fait non avec son doigt là, mais si, on sera prêt d'ici là. Merci à la réalisation, Jean-Jean, l'ami Damien, c'était un plaisir. L'émission locale, rendez-vous le mois prochain.